Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
8h21 sur France Culture, nous sommes en compagnie de la députée européenne Eva Joly, vice-présidente de la commission taxes du Parlement européen. Pour dialoguer avec vous, Caroline Fourest et Brice Couturier sont en notre compagnie. Eva Joly, vous consacrez un chapitre dans l'ouvrage que vous publiez, Le loup dans la bergerie. Vous consacrez ce livre à Jean-Claude Juncker. Il faut que je dise que le loup, c'est Jean-Claude Juncker et la bergerie, c'est la bergerie européenne. Et vous lui promettez un gâteau qui s'appelle TAFTA. Pourquoi le TAFTA est-il coécrit par Jean-Claude Juncker? En quoi, selon vous, y a-t-il un intérêt pour ce président de la Commission européenne d'avoir ce traité? Qu'est-ce qu'il cache?
Mais lorsque on voit la vie et l'œuvre de Jean-Claude Juncker, la place qu'il occupe au Luxembourg les multinationales, et le procès d'Antoine Deltour nous a montré des choses que moi je ne savais pas. Par exemple, que Ernst & Young travaille avec le papier en tête, Pricewaterhouse travaille avec le papier en tête du ministère des Finances. Ils établissent le tax ruling.
Pricewaterhouse, juste pour expliquer, oui. C'est un grand cabinet d'audit. Cabinets d'audit constituent une part importante des emplois au Luxembourg.
C'est ça. Et donc, en fait, on s'aperçoit que le Luxembourg est régi par les auditeurs et qui sont capables de produire des documents en tête du ministère des Finances. Ça, nous l'avons appris dans le procès d'Antoine Deltour. Donc, on voit la place que les multinationales ont au Luxembourg où ils remplacent l'État. Ils écrivent, ils co-écrivent les textes.
C'est de la sous-traitance, dit le Luxembourg.
Est à la tête de la Commission et la Commission est responsable des négociations. Donc, la faiblesse du système, c'est évidemment cette conviction ultralibérale qui est la sienne, c'est que les intérêts des multinationales, c'est l'intérêt des Européens. Et je pense que moi je suis en désaccord avec ça, et beaucoup d'hommes et femmes politiques sont en désaccord avec cela. Ce n'est pas parce que les multinationales auront abolit toutes les sauvegardes que nous avons mis en place. Je pense à nos textes sur la qualité de l'air, de l'eau, la protection notre principe de précaution. C'est pas parce que on abolirait cela qu'il y aura plus d'emplois ou que les citoyens se porteront mieux. Donc je pense que c'est très dangereux. Et également, et je suis ravie d'apprendre que Greenpeace va publier l'état des négociations, parce que contre quoi nous nous battons au Parlement, nous les Verts, c'est bien le secret de ces négociations. C'est que c'est comme si le contenu ne concernait pas vraiment les citoyens. Les négociations se passent entre initiés à l'abri de tout contrôle démocratique. Donc ce leak, cette fuite est bienvenue.
Caroline Fourest.
Oui, votre livre met le doigt sur effectivement un symbole qui est troublant pour l'image même de l'Union européenne, un président de conseil qui vient du Luxembourg. Et en même temps, c'est le premier à avoir été autant élu. Donc c'est un peu terrible de constater que la démocratisation aboutit à ce symbole. Mais ma question, ce serait, selon vous, puisque vous décrivez ces deux visages de Jean-Claude Juncker, l'ancien ministre des Finances du Luxembourg, et celui qui s'est fait élire en disant « je ferai de la lutte contre l'évasion fiscale ma priorité », de façon sincère. Lequel de ces deux visages a été élu, selon vous ?
Moi, je ne pense pas qu'on puisse passer toute sa vie à mettre en place une optimisation fiscale raffinée et devenir le champion de la lutte contre la fraude fiscale. Je pense que ça, c'était le discours convenu qu'il a tenu devant nous, mais à laquelle, en réalité, personne ne croyait. C'est exactement la même crédibilité que d'avoir Al Capone, ministre de la Justice, ou Bernard Tapie, président de la Cour des comptes.
Et néanmoins, tout à l'heure, Eva Joly, vous nous disiez qu'il y a quand même des commissaires qui travaillent sur ce sujet sous sa présidence. Est-ce que vous diriez qu'il arrive à freiner cette lutte contre l'évasion fiscale? Il la stoppe ou simplement il se contente de ne pas vraiment faire une priorité?
Non, si vous voulez, il est là à un moment historique. Et il est poussé par les événements. Il est poussé par son Parlement, mais il est surtout poussé par des millions de citoyens. La campagne de soutien à Antoine Deltour, c'est des centaines de milliers de personnes. Et l'idée de faire ce procès au Luxembourg contre Antoine Deltour et Edouard Perrin, le journaliste, tourne au désavantage du Luxembourg dans des grandes largeurs, parce que tout le monde voit comment ça fonctionne. Donc, à un certain moment, la vérité finit par effleurer.
Eva Joly, vous avez été magistrat, je n'ai jamais été avocat, mais je vais essayer malgré tout d'être l'avocat, non pas d'Antoine Deltour, mais au contraire de ceux qui, au Luxembourg, disent qu'il faut un secret bancaire. Il y a des professions où l'intérêt du secret existe. N'y a-t-il pas, selon vous, une sorte d'abus chez ces lanceurs d'alerte qui, finalement, peuvent mettre en péril des édifices? On sait bien que les avocats ont besoin de secrets, on sait que les banques ont besoin de secret. Il y a des moments dans la vie des affaires où on ne peut pas tout dévoiler. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique?
Mais on voit bien à qui profite le secret bancaire. Et le Luxembourg, notamment, a fait commerce de la criminalisation de son secret bancaire. D'ailleurs, c'est parmi ses slogans, c'est ce qu'il dit les responsables des petits actionnaires luxembourgeois. Jean-Claude Juncker dit aux multinationales, venez chez nous, aucun banquier, aucun responsable d'entreprise n'est jamais poursuivi. Si vous voulez, ils offrent ça, ils offrent le secret absolu, donc vous ne risquez pas que vos petites affaires seront découvertes si vous venez chez nous.
Mais sans aller jusqu'à des choses criminelles, est-ce qu'il ne faut pas maintenir un certain nombre de secrets dans la vie des affaires, encore une fois, dans la loi pour un avocat? Est-ce que finalement l'idée que la transparence serait en quelque sorte la panacée, est-ce que ça n'est pas une idée qui pourrait devenir dangereuse?
En tout cas, Nous sommes dans un système qui est complètement opaque et où l'avantage et le désavantage des citoyens est très grand. Donc le balancier n'est pas encore à un stade où la transparence deviendrait dangereuse. Pour le moment, c'est l'opacité qui est dangereuse pour les citoyens. On le voit dans les négociations sur le TAFTA, on le voit dans l'affaire Antoine Deltour, parce qu'est-ce qu'il a relevé? Tout le monde le savait en réalité, que le Luxembourg vivait de ce deal de peu d'imposition. Mais c'est pas la même chose que d'avoir les 330 deals sur la table et de pouvoir réellement voir le taux qui paye IKEA ou qui paye telle autre grande entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que le secret professionnel, il est justement fait pour cacher des choses qui ne sont pas vraiment dissibles. Évidemment que je suis sensible en tant qu'avocate au fait qu'il y a un secret de l'avocat nécessaire, mais c'est le secret de la défense. C'est l'avocat dans la défense de l'intérêt de son client. Et pour moi, lorsque l'avocat intervient comme homme d'affaires dans des opérations financières, ce secret est abusif, même là.
Mais par exemple, une société écran, elle peut servir pour lancer une OPA. On peut considérer évidemment que la financiarisation de l'économie est quelque chose d'abusif aujourd'hui, mais les OPA ne sont pas interdites.
Bon, écoutez, monsieur, si on utilise une société écran pour lancer une OPA, quel est l'objectif? C'est de cacher qui vous êtes. C'est de pouvoir ramasser les titres sur le marché avant l'OPA pour pouvoir les apporter à l'OPA et gagner au passage 15 ou 20% la différence
qui vous
engrangerez dans votre société offshore. Et ça fait un pactole avec lequel vous pouvez jouer ensuite, qui échappe au contrôle des actionnaires minoritaires, des auditeurs de tout le monde, quoi. Donc, c'est justement, on voit bien à quoi ça sert. Ça sert à la criminalité économique.
Caroline Fourest.
Après le scandale des LuxLeaks, vous avez obtenu avec d'autres collègues européens une commission, alors pas une commission d'enquête, c'est ce que vous vouliez, mais une commission spéciale. Jean-Claude Juncker a accepté même de répondre à des questions.
Ouais.
Néanmoins, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette commission et qu'est-ce que vous en attendez?
Donc la commission spéciale a travaillé pendant 9 mois et a rendu un rapport au mois de novembre. Parce que vous savez, les parlementaires, ils font des rapports, des résolutions. C'est notre production. Et nous avons rendu un rapport qui décrit parfaitement le problème, je crois, et qui suggère les solutions. Nous avons obtenu une prolongation de ce mandat et nous allons travailler jusqu'à l'été, parce que notamment la Commission et le commissaire Moscovici, notamment, a fait obstacle à la transmission à notre commission d'enquête des documents importants de l'institution européenne qui s'appelle Code de conduite, où se réunissaient les États pour discuter de ces régimes néfastes. Et on s'aperçoit en réalité, en pouvant examiner ces documents, que le Luxembourg et la Belgique se sont toujours opposés à toute réforme de la fiscalité, donc dans leur propre intérêt.
Mais est-ce que finalement, pardon Eva Joly, l'erreur, c'est pas d'avoir laissé rentrer le Luxembourg à l'intérieur de l'Union européenne?
C'est l'hypothèse de Zucman, par exemple. Zucman, donc le thésard de Piketty, dit que le Luxembourg n'est pas vraiment un État et qu'il n'a pas sa place au sein de l'Union européenne. Moi, je n'irai pas aussi loin. Il y a des hommes politiques luxembourgeois très respectables. Le Luxembourg a aussi une action très positive, notamment en matière de développement, par exemple. Donc, il faut que nous traitons le problème qui est le commerce de sa souveraineté et le fait qu'ils sont arrivés à nous voler, à nous et à d'autres pays, nos produits fiscaux.
Brice Couturier.
Deux observations. La première, c'est la complicité des États européens dans cette affaire du LuxLeaks, hein, parce qu'en fait, l'optimisation fiscale était un secret de Polichinelle. En réalité, les grands pays européens, dont les multinationales sont souvent des espèces de champions nationaux, étaient bien contents de faire bénéficier de leurs multinationales des avantages fiscaux que leur offrait Luxembourg pour des raisons de compétitivité évidentes. Surtout que la plupart de ces multinationales, en réalité, réalisent dorénavant la majorité de leurs chiffres d'affaires à l'étranger, et non pas dans leur pays de naissance. Donc c'était intéressant de bénéficier du Luxembourg. Deuxième observation, le LuxLeaks a été un révélateur de l'opacité et qu'aujourd'hui c'est terminé. À mon avis, vous nous décrivez une situation qui est déjà finie. Le secret bancaire suisse, on le sait, aujourd'hui il est totalement aboli. Quant à ce que le Luxembourg faisait, cette optimisation fiscale, c'est fini aussi. Deux directives ont été adoptées récemment par l'Union européenne. La directive sur l'échange automatique d'informations sur les récrits fiscaux et surtout la directive Country by Country Reporting qui va obliger les grandes entreprises multinationales comprises à publier pour chacun des pays de l'Union européenne où elles sont présentes des données clés sur leur fiscalité, sur leur chiffre d'affaires. Toutes les données devront être transparentes et elles seront surtout échangées entre les différentes administrations fiscales de l'Union européenne. Effectivement, le Parlement européen, je crois, n'a pas encore voté là-dessus de cette directive, mais aussitôt, et je pense que le Parlement européen va l'adopter, aussitôt qu'elle sera adoptée, le Luxembourg paradis fiscal, ça sera terminé du jour au lendemain, comme c'est terminé aujourd'hui pour la Suisse, ce que peu de Français savent.
Eva Joly.
J'aimerais bien que vous ayez raison, Brice Couturier. Je crains que non. Depuis LuxLeaks, vous savez, le chiffre d'affaires de PricewaterhouseCoopers et les autres ont encore augmenté. Ils sont encore recrutés. Ça marche encore très bien. Ils sont mis en place. À côté de leur secret fiscal, ils ont mis en place des régimes fiscaux comme le Patent Box, qui sont encore très attractifs. Et les multinationales ont beaucoup de billes pour ne pas payer d'impôts. Et notamment, ils manipulent ce qu'on appelle le prix de transfert, c'est-à-dire Coca-Cola ou McDonald's ou les autres, ils augmentent artificiellement les redevances pour que les comptes en France soient toujours à zéro ou déficitaires. Donc, comme ça, ils disent aux salariés, on peut pas vous augmenter, vous ne pouvez pas avoir d'intéressement. Ils disent au pouvoir public, il faut nous aider, Disneyland, hein, il faut nous aider puisque ce n'est pas rentable. Et c'est pas rentable parce que la redevance versée, ça, on le contrôle pas vraiment.
Et donc, à partir du moment où ça sera transparent, ce sera plus facile de le contrôler.
Absolument.
Tout de même.
Et donc, si vous voulez, cette transparence, le country by country reporting, n'arrive pas tout seul aujourd'hui comme ça. C'est justement parce que nous, les Verts et les députés européennes, l'ont exigé. Lorsque je suis devenue députée européenne et que j'ai présidé la commission de développement, j'ai fait deux rapports sur Tax and Development, le lien entre les impôts et le développement. Et donc en 2011 déjà, on exigeait, nous les députés verts, ce country by country reporting. Il figurait également dans la directive blanchiment, de lutte contre le blanchiment. Donc c'est une lutte ancienne, c'est une lutte qui dure depuis 20 ans et nous aboutissons. Mais nous aboutissons grâce aux lanceurs d'alerte, grâce à des Antoine Deltour. Ça ne vient pas tout seul. Chaque petit progrès a rencontré des résistances invraisemblables. Donc, il faut se réjouir de l'énorme travail qui a été fait aussi par l'OCDE en mettant en place d'abord l'échange d'informations à la demande et puis maintenant automatique. Et c'est comme la cigarette, si vous voulez. On est parti d'une culture où tout le monde fumait dans les restaurants et dans les bars à une culture où c'est inconcevable. Et je pense que nous sommes dans la même trajectoire. Cette criminalité-là, parce que c'en est une, c'est la criminalité des 10 années à venir. Et je pense qu'il va y avoir des mauvaises surprises pour ceux qui ne le comprennent pas et continuent les mauvaises habitudes.
Eva Joly, vous venez d'évoquer le Parti écologiste. Que vous inspire la situation des Verts aujourd'hui ?
Alors, je vais d'abord dire une chose. C'est vrai que nous sommes en crise pour beaucoup de raisons. Ça, tout le monde le sait. Moi, j'ai une estime, une amitié pour les militants chez nous. La force de notre parti, ce sont les militants. Il faut les connaître. Ceux qui, depuis 30 ans, sur la radioactivité, sur le plateau de Saclay, ou luttent contre les centrales nucléaires et qui consacrent leur vie, qui se sont mi-temps quand ils avaient 30 ans et qui, à la retraite, se retrouvent aussi avec une retraite mi-temps pour avoir milité. Mmh. Cela, ils existent. C'est ça, la valeur des écologistes. Que Jean-Vincent Placé et les autres partent, bon, mais ça, c'est des épiphénomènes. C'est des gens qui...
Ils sont de plus en plus nombreux, quand même.
Oui.
Ça commence à ressembler à une hémorragie, Denis Baupin, le dernier en date, mais ce sont les cadres du parti qui partent.
Ce sont des cadres des partis qui partent pour des raisons qui souvent leur sont personnelles et parce qu'ils pensent...
Politique.
Ils pensent que leur place, c'est d'être ministre. C'était sans doute le but ultime de leur vie, quelque chose qui était plus important que d'obtenir le respect pour les aider écologistes.
Mais je veux dire... Justement, comment expliquez-vous ça ?
Même si nous sommes en crise, et c'est ça que je veux dire, nous sommes utiles... Et nous sommes beaucoup plus utiles que la plupart des partis politiques. Nous sommes utiles au Parlement européen. C'est nous qui mettons l'agenda pour l'environnement, pour même en matière fiscale. Et d'ailleurs, les députés de droite nous les reconnaissent. Ils disent que vous, les écologistes, le produit écolo, c'est un produit d'appel. Vous en avez sous la pédale. Et donc, nous sommes utiles. Nous sommes utiles en France. S'il y a un référendum sur Notre-Dame-des-Landes, c'est que nous avons porté avec les sadistes et les autres ce combat depuis 30 ans. Si Marine Tondelier a pu empêcher à Hénin Beaumont l'abattage de 50 arbres, mais c'est les écologistes, c'est des petits combats tous les jours dans les localités et nous sommes donc utiles. Et moi je voudrais qu'on retienne ça et je voudrais que nous améliorons notre pédagogie et que les citoyens aient envie de venir avec nous, parce que notre combat, nous sommes les seuls à porter une autre façon de vivre ensemble et un avenir.
Mais comment expliquer le hiatus justement entre ces combats qu'on peut trouver justes, Eva Joly, et un parti qui incarne aujourd'hui les disputes politiciennes, les luttes de pouvoir, les plats de lentilles ?
Oui, c'est les plats de lentilles, oui. Écoutez... nous avons un congrès au mois de juin. Il faut espérer que nous allons régler, clarifier nos positions. Je pense, si vous voulez, on a pêché par optimisme. On a pensé que les socialistes allaient respecter le deal qui a été passé pendant la campagne présidentielle, la mienne, et qui a aussi été compliqué à gérer pour moi. Et donc, on a fait confiance aux socialistes pour respecter le deal, pour infléchir leur politique dans un sens plus favorable à l'écologie. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est ça qui a créé la crise.
Aujourd'hui, Emmanuel Cos, qui était quand même leader du parti il y a encore quelques mois, dit que, évidemment, François Hollande peut porter les valeurs de l'écologie en 2017. Est-ce qu'au contraire, vous pensez, Eva Joly, que pour être utile, il faut un candidat en 2017, candidat à Europe Écologie Les Verts ?
Moi, je ne vois pas comment les écologistes peuvent aujourd'hui dire que nous allons voter pour François Hollande, alors que c'est l'homme qui n'a pas tenu ses promesses sur aucun des points, pour ainsi dire, importantes pour moi. Sur la transition énergétique, les décrets ne sont pas en place. Sur le nucléaire, qui est le sujet numéro un, nos centrales vieillissantes, dangereuses, Il avait promis de fermer Fessenheim. Il ne le ferme pas. Si vous voulez, il n'a pas réglé le problème de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça, c'est... Il y a énormément de blessures. Et moi, je pense que les idées écologiques doivent être portées par un candidat autonome.
Qui ?
Alors, le qui est moins important. J'espère personnellement que Nicolas Hulot accepterait de porter les couleurs de l'écologie, parce que je pense qu'il peut réunir beaucoup de voix sur son nom. Et pas mon expérience, si je peux dire, j'ai vu que le 2,3% n'a pas su imposer à François Hollande un respect des écolos. Donc je me dis qu'il faut un candidat qui fasse 16, 20, 25% pour que l'écologie ait sa place, parce qu'il y a que ça qu'ils comprennent. C'est incroyable quand même, cette incapacité d'anticiper l'avenir.
Benoît Bouscaret.
C'est le rapport de force qui compte et c'est oui. Le chiffre. Vous y croyez vraiment à 15 ou 16 ou 20%
Ah, moi, je pense qu'on pourrait avoir des surprises parce que les citoyens ne font plus confiance. D'ailleurs, je crois que les chiffres sont absolument ahurissants. Je crois que c'est plus de 80% des Français ne font plus confiance aux hommes politiques.
Caroline Fourest.
Mais si c'était Nicolas Hulot, Eva Joly, ce serait plus que le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Ce serait candidat de la société civile. Ça devrait aller au-delà de ce parti.
Absolument. Ce n'est pas le candidat d'Europe Écologie. Nous nous rangerons derrière lui et nous l'aiderons à faire campagne s'il le souhaite, puisqu'il n'a pas d'appareil, lui. Et donc, pour faire une campagne, il faut bien des couleurs d'affiches, il faut des gens qui s'occupent des salles, bon, je ne sais pas moi tout. Donc, c'est pour nous un espoir.
Et Cécile Duflot ?
Alors, je pense que si Nicolas Hulot n'y allait pas, le problème se pose et il nous faut un candidat. Et donc, Cécile Duflot est une candidate tout à fait naturelle et une très bonne candidate aussi.
Le fait que les idées écologistes soient aujourd'hui un peu partout, peut-être pas au gouvernement, en tout cas pas suffisamment pour vous, qu'est-ce que là aussi ça vous inspire, Eva Joly, en matière de politique, en matière également de vision de la société ?
Est-ce que les idées écolos sont partout ? Je dirais ils s'infusent dans la société civile. Je pense que les citoyens ont des réflexes écolos. Mais dans les partis politiques, je ne les vois pas tellement. Je n'entends jamais Macron parler d'écologie, par exemple. Et donc, ce n'est pas vrai. Les décisions politiques ne sont pas prises en fonction de l'écologie.
Caroline Fourest.
À nouveau, une question plus européenne. Les écologistes, à mon avis, ont moins montré leur utilité au niveau national qu'au niveau du Parlement européen. Et dans votre combat contre les paradis fiscaux, avez-vous l'aide, même involontaire, des députés nombreux, nationalistes, populistes, de l'extrême droite ? Est-ce qu'ils se joignent à votre combat contre les paradis fiscaux ou, comme certains sont d'ailleurs un peu évoqués dans les Panama Papers, au contraire, ne font-ils rien ?
Alors, en observant les votes, c'est vrai qu'on voit de temps en temps l'extrême droite voter comme nous. Mmh. Et ça, c'est libre à eux. Mais nous ne coopérons pas avec eux, nous n'établissons jamais de résolutions communes. Et même le fait, on vote de temps en temps leurs amendements. La position des Verts, c'est que si les amendements de l'extrême droite sont bons, on les vote.
Merci Eva Joly de nous avoir présenté votre conception des affaires qui secouent l'actualité aujourd'hui entre les LuxLeaks, les Panama Papers et le TAFTA. Le titre de votre livre, Le loup dans la bergerie, Jean-Claude Juncker, l'homme des paradis fiscaux placé à la tête de l'Europe aux éditions des Arènes.